vécu, campagne qui s'inscrit dans le cadre de la présente négociation qui vise à briser les préjugés qui perdurent à l'égard du personnel de la fonction publique et parapublique, communément appelé les fonctionnaires. Une campagne qui fait suite à un vaste sondage relayant une opinion négative envers la fonction publique et des préjugés persistants. Le syndicat qui représente 30 000 des 550 000 employés de l'État ne s'en cache pas. Les publicités chercheront à mieux faire comprendre le travail de ses membres. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi dans Charlebourg et à Shawinigan grâce à ckiafm.org. Bonne journée à l'écoute de la radio généraliste et progressiste.
Eh bien, bonjour et bienvenue à cette première édition des Capés. En cette année 2020, c'est selon comme vous voulez. Et donc, au menu aujourd'hui, on va parler d'accessibilité, on va parler voyage et on va parler aussi d'assistance sexuelle. Ce sont trois superbes sujets qu'on va aborder au courant de l'émission. Et je ne sais pas si vous étiez, si vous êtes abonné à la page Facebook de l'émission, mais je vous disais que la chronique aujourd'hui, la chronique Actualité des Capés avec Olivier Colon-Desrames, est un peu spéciale. La chronique va avoir une saveur un peu internationale puisque Olivier est en France actuellement, il est dans sa famille. Salut Olivier!
Michel. Oh. Exactement, en Haute-Savoie.
Oui, bon. Et il fait beau chez vous?
Oh, c'est de la folie, mon ami. Aujourd'hui, c'est monté à plus de 20 degrés sur la terrasse. Il n'y a pas un gramme de neige. Beau soleil depuis 15 jours. On se croirait presque dans le sud.
Oh boy! Ça fait changement
de... Ouais, c'est vraiment plaisant.
Ouais, on devrait pas trop parler de météo, mais ici, je sais pas si tu étais au courant, mais il neige... Il a quand même neigé toute la journée ici, centre-ville et bien blanc.
Je continue à recevoir les alertes du transport adapté, donc oui, j'ai vu que la période des fêtes, il y a eu un peu de neige.
Tout à fait. Mais parlant de transport adapté, il y a eu la soirée spéciale le 31 décembre. Je sais pas si tu as pu en avoir des échos à distance, mais il semble que ça a bien été, mais les gens ont... Ils n'ont pas tous allumé que fallait réserver 5 jours d'avance. Donc, il y en a qui ont réservé la veille ou l'avant-veille et ils se sont retrouvés le bec à l'eau avec un transport à minuit 30.
Faut travailler la communication.
Tout à fait. Et donc, je le disais en début d'émission, l'émission a une saveur internationale. T'as certainement pu trouver de la belle information durant les deux dernières semaines que l'émission a pris relâche.
Ben oui, écoute, je te dirais que là, bon, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité internationale en France, ça fait un petit moment que ça brasse. Une partie de la population brasse le gouvernement qui est dans une logique de vraiment qui veut casser d'une certaine manière le modèle français social. Donc là, c'est toujours de bon aloi de faire des annonces pour les personnes handicapées. Donc il y a eu quelques belles annonces, bon, bien entendu la plupart du réchauffé, mais il y a eu une polémique très intéressante, l'État français ayant décidé de rendre vraiment obligatoire l'accessibilité des douches, de l'ensemble des douches de plein pied. Et il y a eu toute une levée de boucliers effroyables que j'ai de site en site, d'interview en interview à rebondir avec des gens qui disaient « Mais si vous voulez qu'on mette plus de bacs à douche, il va falloir qu'on augmente la hauteur des planchers, ça va être infernal. » Je ne sais pas si tu imagines, Michel, mais aller rajouter 7 ou 10 cm de béton à chaque étage, la structure allait prendre des tonnes, il allait falloir mettre des poutres en acier, ça allait augmenter la valeur des bâtiments. Et une partie des gens, mais qui s'expriment toujours sous le couvert de l'anonymat pour ne pas avoir de problème avec leurs employeurs, qui disent « Oui, mais c'est quand même possible de faire des bacs encastrés dans les planchers. » Et donc là, en ce moment... Et c'est un peu le même débat qu'il y a eu, je pense, au Québec, passé un temps où on nous annonçait qu'on allait améliorer l'accessibilité des logements. Dès que t'es rendu à le faire, le maire Diépogne et ceux qui sont en responsabilité de le faire trouvent toutes les raisons de ne pas changer les manières de faire. Ça fait que cette année, normalement, c'est la première année au Québec, on va avoir des règlements qui imposent l'adaptabilité des bâtiments qui font plus, bon, toujours pareil, hein, plus de 4 étages et plus, et ainsi de suite. Et j'ai hâte de voir si au Québec, on va avoir le même genre de rebondissement, c'est-à-dire que tout le monde dit rien, mais rendu qu'il faut faire l'effort pour rendre une société moins discriminatoire, tout d'un coup, tout le monde trouve toutes les raisons du monde. Par contre, il y a eu quelques annonces intéressantes, notamment pour le transport adapté, puisque bon, pour ceux qui malheureusement étaient déjà venus en France et s'étaient retrouvés confrontés à ça, le transport adapté en France, c'est une galère sans nom. Et là, le gouvernement maintenant veut obliger, on va voir comment ça va être fait à partir de septembre 2020, est-ce que ça va marcher ou pas, mais pour des personnes qui ont un certain niveau de handicap, en France, il y a des commissions qui évaluent des pourcentages de handicap, donc par exemple, de manière générale, une personne paraplégique en fauteuil roulant ou une personne aveugle, c'est 100%, eh bien, eux, on ne pourrait plus leur refuser le transport adapté dans un territoire qui n'est pas leur territoire de résidence. Il faut savoir qu'en France, le transport adapté, c'est uniquement là où tu résides. Au Québec, on sait que, bon, quand on descend à Montréal, Michel, tu n'es pas prioritaire pour prendre le transport adapté, mais tu y as droit avec un statut de visiteur. En France, c'était impossible ou quasiment impossible, ou alors en payant le plein prix, qui bien entendu est plus cher qu'un prix de taxi. Donc quand même quelques annonces intéressantes, et également, je pense que c'est quelque chose à souligner, la volonté que certaines personnes, quand le handicap n'est pas réversible, qu'il soit est prévu pour rester stable ou pour être annulé, que tu puisses avoir une reconnaissance à vie de ton statut de personne handicapée. Je pense qu'au Québec, au moins du côté du système de l'aide sociale, de la solidarité sociale, on ne demande pas aux gens de prouver à tous les 2 ans s'ils sont toujours amputés des 2 jambes. Mais en France, il y avait comme une manière de faire qui était malheureusement qu'aux 5 à 10 ans, il fallait tout recommencer. Donc là, la volonté de permettre que certaines personnes dont les limitations sont stables ou dégénératives n'aient plus à prouver ça. Aussi, bon, moi, je suis dans un coin que je connais très bien, le massif des Bauges. Donc c'est un peu, quand on vient de mon coin, on est savoyard avant d'être français, comme souvent on est québécois avant d'être canadien. Et je te dirais, j'ai remarqué vraiment une évolution très importante au niveau de l'urbanisme même. Moi, je suis dans un coin, on parle de villages de 300, 500, 2, 3000 habitants. Vraiment une très, très grande évolution. Beaucoup de passages piétons ont été surélevés. Comme toi, tu l'as vu, Michel, à Québec, sur chemin de la Canardière, donc t'éviter d'être obligé de descendre dans la rue pour remonter. Là, je l'ai vu dans des villages, des tout petits villages, des dalles podotactiles pour les personnes handicapées visuelles, avec même des lignes de guidage que je trouve intéressant, même si, bon, moi, avoir une ligne de guidage qui permet à une personne aveugle d'aller jusqu'à sa voiture, ça me pose toujours la même question, mais bon, au moins ils l'ont fait. En tout cas, on sait qu'au Québec, il y a quelques personnes handicapées visuelles qui peuvent effectivement avoir le permis de conduire. Mais non, vraiment une belle évolution, plein de petits commerces qui ont mis des rampes devant le commerce. Je vois vraiment, je te l'avais dit, moi, quand je suis arrivé au Québec en 2004, je trouvais quand même qu'au Québec, il y avait certaines choses qui étaient très en avance sur la France. Et je pense que, notamment en s'attaquant à l'urbanisme dans les petits villages et dans les petites villes, et en attaquant le transport adapté, je pense que la France est en train de rattraper le Québec dans ce qui faisait du Québec, je pense, une société avec des avantages comme le transport adapté, qui était nettement moins pourri qu'ailleurs, parce que je pense qu'on peut quand même pas dire que c'est super mieux, mais c'était nettement moins pourri. Puis je voulais te parler d'un truc, c'est très perso, mais je suis allé magasiner une tablette pour mon père, mm-hmm. qui a passé un certain âge, enfin, on va pas le dire en ligne, mais et je suis tombé sur des tablettes qui sont, on est en France, hein, donc c'est senior friendly, donc amical pour les aînés. Et écoute, on vient d'en faire l'installation une tablette très simplifiée, des filtres anti-pourriels vraiment super bien faits, des grosses icônes, un son qui est fort, une synthèse vocale intégrée pour lire les nouvelles. Pas besoin d'avoir les trucs pour personnes handicapées visuelles comme Jazz. Des loupes intégrées dans la tablette pour grossir. Super bon contraste de couleur. On a eu un petit souci à la livraison. Écoute, ils nous ont rappelé deux fois pour s'assurer qu'on l'avait. Deux semaines gratuites d'assistance. T'appelles au téléphone, ils t'expliquent tout pour une personne qui est autonome. Et j'ai trouvé que c'était très appréciable. Tout à l'heure, je voulais solliciter une aide. Et la tablette m'a bien demandé, est-ce que vous êtes la personne qui est titulaire ou est-ce que vous êtes une personne qui l'aide? Et quand j'ai appuyé sur « Je suis une personne qui l'aide », la tablette a marqué « Dans ce cas-là, écrivez-nous de votre adresse, n'utilisez pas l'adresse de la personne en question. Cette adresse, elle est à elle, c'est ses informations, c'est personnel et confidentiel. » Honnêtement, ça s'appelle « Ordi Mémo ». Je ne sais pas si le produit est disponible au Québec ou si ce type de produit existe au Québec, mais j'ai vraiment trouvé là un produit extrêmement bien adapté. Ça va permettre à mon père de parler avec sa petite fille beaucoup plus simplement, parce qu'effectivement, pour une partie des gens qui ont dépassé 70, 75 ans, les technologies mobiles, c'est pas toujours évident, mais écoute, super bon. Et donc, c'est ça, senior friendly ou approuvé par les seniors quand c'est traduit en français comme ça devrait. Donc vraiment un beau concept, et je me rends compte aussi la société française a beaucoup évolué là-dessus, et de dire, et ce n'est pas le seul produit où ils ont fait l'effort d'aller demander à des personnes âgées qu'est-ce qu'elles en pensent. Et la tablette, ben écoute, même si t'entends moins bien, tu vois moins bien, t'as pas la mobilité, la motricité fine qu'on dit avec les doigts. Vraiment un super produit. Alors il y a Ordi Mémo, il y en a d'autres, mais moi écoute, j'ai parlé au gars, j'ai dit mais écoutez, je vais parler de votre produit. En tout cas, pour des gens qui ont des parents d'un certain âge ou même des personnes pas à l'aise avec les technologies, je pense d'aller regarder ces produits-là, donc ont été validés, testés par des personnes âgées. Je pense que c'est vraiment intéressant, parce que c'est vrai qu'avec des, en tout cas pour toi comme pour moi, et d'ailleurs surtout pour toi Michel, la technologie c'est facile, mais je trouve que là, notamment avec la reconnaissance vocale, de pouvoir dicter qu'est-ce que tu veux chercher, je trouve que là il y a des produits vraiment intéressants, puis qui vont permettre aux personnes âgées de rester connectées. Même si le téléphone, ils l'entendent moins bien, je te dis, avec cette tablette-là, c'est vraiment, vraiment un produit. Moi, j'en ai quand même vu, puis j'aime la techno accessible aussi. J'avoue que c'est vraiment intéressant. Et une compagnie, je veux dire, un service, en français, on dirait nickel cone, top-notch, vraiment, vraiment impressionnant. Donc, à surveiller pour les gens qui auraient des personnes autour d'eux pas à l'aise avec les technologies, d'aller regarder ce type de produit, comme je dis, en espérant qu'il soit disponible au Québec, vraiment intéressant.
Malheureusement, je suis sur leur site web actuellement, et malheureusement, ce n'est disponible qu'en Europe, en Belgique, en France et en Suisse. Mais c'est effectivement que ça semble quelque chose d'intéressant. Peut-être inciter les compagnies à avoir ce type de produit-là. Et ce que je vois même sur le site Internet, c'est que ça fonctionne autant avec un ordinateur, une télé, sous Android aussi. Ça semble vraiment, un produit intéressant.
Mais moi, tu vois, j'avais essayé dans le cadre de mes activités militantes rémunérées de contacter, au Québec, il y a des structures qui sont prévues pour aider les entreprises. Donc, on peut parler du CRIC, donc le Centre de recherche et d'innovation du Québec, en leur disant, mais est-ce que vous avez le ministère du développement de l'économie, de je ne sais pas quoi et tout, mais est-ce que vous avez des plans personnes handicapées, est-ce que vous avez des programmes pour l'économie des seniors, qu'on appelle la silver economy, pour essayer d'aider les entreprises québécoises à s'aligner sur ce marché. Moi, je vois en France des meubles avec, tu sais, des poignées plus faciles à prendre, vraiment des, tu sais, qui peuvent être ajustées facilement avec une force minimum. Je vois une société qui a évolué pour essayer que ça soit l'industrie nationale qui réponde aux besoins de la population des aînés. Et je pense qu'au Québec, le réflexe n'est pas encore là. Alors, je pense que le Québec est une des sociétés les plus vieillissantes du monde. Il serait peut-être temps qu'il y ait quelqu'un qui s'y mette. Mais encore une fois, moi, pour avoir vérifié, je ne vois pas ça. Et puis, je le vois, et tu vois, ma famille me l'a confirmé. Maintenant, en France, les impôts, ça se fait uniquement par Internet. Sinon, il faut payer pour les faire par papier. Puis, je pense qu'avec le virage numérique qu'a annoncé le gouvernement, puis qui ne fait que suivre, dans le fond, peut-être en accélérant, mais ce qui avait été annoncé avant, je ne suis pas sûr que la société québécoise, si elle ne considère pas que vieillir, c'est aussi acquérir des limitations, avec en plus une barrière technologique. Je veux dire, les gens qui ont 70 ans au Québec, ils ont fait leur carrière sans forcément avoir besoin d'un ordinateur et surtout pas d'un téléphone cellulaire, intelligent et tout. Mais je pense que la société québécoise risque de perdre une partie de sa population, ou alors d'obliger les personnes âgées à uniquement faire affaire avec des compagnies multinationales. Je pense que tu as déjà rencontré des gens pour parler, par exemple, de ce que fait Apple, qui a vraiment pris la mesure de ce genre de besoins et créé des produits. Mais il serait temps aussi que dans chaque pays, puisque la technologie développée par OrdiMemo, c'est sûr que c'est sur une tablette Lenovo, c'est pas eux qui ont créé la tablette, si je prends l'exemple de la tablette qu'on a acheté, et c'est avec un système d'exploitation Android qui n'est pas le leur. Mais eux, ils ont fait le petit bout de rampe qui manquait pour arriver à la porte. C'est eux qui l'ont fait. Et je trouve que ça, c'est vraiment intéressant. Alors, avis aux auditeurs, auditrices, si vous connaissez des gens qui travaillent dans des ministères ou des patentes étatiques en lien avec l'innovation, je pense qu'il serait temps qu'on s'y mette, et peut-être pas comme le gouvernement fédéral qui avait annoncé l'année dernière un programme spécifique pour créer des produits pour les personnes handicapées, mais d'avoir des gens qui créent, qui adaptent des produits faits pour tout le monde et puis qui font le petit coup qui manque. Si le produit n'est pas fait, c'est comme un magasin quand il y a deux marches, il faut mettre une rampe. Il suffit d'eux, mais si personne la met, ben toi tu rentres pas. Ben là c'est un petit peu la même chose. Je trouve que t'es intéressant. Puis je te dis, service au téléphone jusqu'à 7 heures du soir, des gens respectueux qui t'expliquent et tout. Vraiment une manière de faire, je dirais une philosophie pour adapter les technologies que je trouve intéressante. En tout cas, je sais pas si je pourrais la ramener dans mes valises, vu qu'à la douane on peut pas passer grand chose, surtout pas du fromage, mais je vais essayer de ramener au moins les exemples.
Eh ben c'est bon. Hey, sur ça, je vais te laisser là-dessus, en te souhaitant une belle fin de soirée pour toi, puisque c'est l'heure du dodo bientôt, j'imagine. Nous on va.
C'est l'heure du digestif.
Oh, c'est l'heure du digestif. Et tu rentres au Québec quelle date déjà?
Ah ben là, comme il y a des cambrioleurs qui nous écoutent, je suis déjà là, mais sinon, je suis là mercredi en studio.
Parfait, donc on se reparle d'ici là.
Allez, à bientôt.
Bye bye.
Bye.
J'en avais déjà parlé, je pense, il y a quelques semaines avec Olivier au niveau de la chronique L'actualité décapée. On avait dit qu'on parlerait sexe. On en a déjà, quand l'émission a débuté en août 2016, elle, on avait parlé des jouets qui étaient facilement adaptés, adaptables à différentes conditions physiques. Mais là, on va plus parler de contact humain, disons ça comme ça. Et au bout du fil, j'ai Eden qui est là pour en parler. Eden a demandé à ce que l'entrevue se fasse avec sa voix, mais modifiée. Eden est au bout du fil. Bonjour, Eden.
Bonjour, Michel. Bonjour à tous.
Donc, ton travail, t'es travailleuse du sexe, mais pour les personnes handicapées. Ça fait combien de temps d'années que tu fais ça?
Alors, je l'ai fait pendant 2 ans entre 2015 et 2016, puis ensuite j'ai fait une pause. J'ai repris cette année en mai 2019.
Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé ce job-là en 2015?
En fait, à la base, moi j'étais escorte, donc travailleuse du sexe pour les personnes en général. Puis en fait, j'ai eu des demandes de personnes en situation de handicap qui m'ont demandé si j'étais à l'aise de pouvoir les rencontrer. Puis j'ai jamais mis de holà ou de frein là-dessus. Puis j'ai commencé à rencontrer des personnes avec certains types de handicap. Puis ensuite, je me suis dit finalement que je préférais rencontrer ces personnes-là plutôt que des personnes générales, en fait.
Qu'est-ce que c'est cette clientèle-là t'apporte de plus que la clientèle dite régulière?
En fait, moi, ce que je ressens vraiment, c'est un gros manque affectif, un gros manque de contact humain en général auprès de ces personnes-là, parce que c'est vrai qu'ils ont tout ce qui est soin des personnes qui s'occupent d'eux, qui font les toilettes et tout, sauf qu'il leur manque complètement le côté humain. Et moi, c'est ça que je veux apporter à ces personnes-là.
Est-ce que tu sais si il y a plusieurs personnes qui font ce job-là ou t'es pas mal la seule?
Il y en a plusieurs. Après, je sais qu'il y a plusieurs travailleuses du sexe qui ne sont pas réticentes à rencontrer des personnes en situation de handicap, mais elles ne font pas forcément mention, par contre. Il faut leur demander.
T'es une des rares, disons ça comme ça, qui le fait exclusivement pour les personnes handicapées.
Je pense que oui, effectivement.
T'es dans la région de Montréal et tout. Est-ce que tu fais exclusivement des rencontres ou des discussions avec des gens de Montréal ou t'en fais d'un peu partout?
Je me suis déjà déplacée plusieurs fois à Gatineau. J'ai potentiellement une personne qui voudrait me rencontrer à Sherbrooke. Enfin, je me déplace partout dans le Québec, finalement. Puis j'irai même en Ontario si la demande était là, évidemment. Okay.
J'ai eu la chance d'en savoir un peu plus sur ta job. Bon, oui, il y a les déplacements, il y a les contacts humains, mais tu fais aussi par Internet, je crois.
Alors, effectivement, je propose des rendez-vous sur Skype. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je me montre à la caméra et je fais à peu près tout ce que je peux faire à la caméra pour pouvoir satisfaire la personne que j'ai en face de moi. Après, ça dépend aussi... Le seul truc que je ne fais pas à la caméra, par exemple, c'est que je ne montre pas mon visage. Parce que je ne veux pas qu'on puisse enregistrer la vidéo. Je ne veux pas qu'une image de moi reste arrière ça. Donc, c'est pour ça.
OK, donc les gens qui prennent tes services ne voient pas ton visage par Skype.
Oui, c'est la seule différence avec une rencontre réelle.
Pour les gens qui veulent entrer en contact avec toi, ça se passe par Internet, c'est ça?
Oui, alors moi j'ai un site internet, j'ai un Facebook, j'ai un Twitter, j'ai mon téléphone, mais c'est vrai que je préfère fonctionner par mes pages textes. Donc j'essaye d'être visible à peu près partout où je peux l'être, même si j'ai pas un référencement Google par exemple. Donc je sais que si on cherche accompagnateur sexuel, personne handicapée par exemple, je suis pas sûre qu'on tombe sur moi directement. Après, ça fonctionne plutôt par bouche à oreille en fait.
Mm-hmm. T'es pas de nationalité québécoise? On sait que en Europe, les aidants sexuels et tout, c'est à la limite bien vu, c'est respecté, parfois même quasiment encouragé. La situation au Québec, selon toi, comment ça se passe?
En fait, pour moi, au Québec, c'est similaire à la France. C'est-à-dire que les politiques n'ont pas pris de décision, que ce soit ni pour ni contre l'accompagnement sexuel. Il n'y a pas de choix qui a été pris clairement. Parce que je pense que déjà, pour eux, il y a déjà l'enjeu des travailleuses du sexe, puisque je fais partie des travailleuses du sexe. Donc, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas décriminaliser juste l'accompagnement sexuel s'ils décriminalisent pas le travail du sexe. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est cet enjeu-là qui est difficile pour eux.
Autant ici qu'en Europe, dans certains pays.
Oui, parce que par exemple, en Suisse ou en Belgique, l'accompagnement sexuel est totalement légal.
OK, que ce soit personne handicapée ou pas?
Absolument.
Donc, la personne sans handicap dans ces pays-là peut avoir une accompagnatrice sexuelle sans problème.
Tout à fait.
Et on le sait, au Québec, au Canada, c'est pas permis. T'es quand même connu dans le milieu de certaines personnes.
Ben, j'essaye d'être visible le plus possible, mais tout en me protégeant aussi, parce que c'est vrai qu'au niveau légal, évidemment, j'encours des risques. C'est pour ça que j'ai demandé à ce que ma voix soit modifiée. Après, c'est sûr que si demain, c'était décriminalisé ici au Québec, moi, je m'afficherais absolument partout. Je fais comme une sorte de coming out et puis j'en suis absolument fière.
Est-ce que il y a pas des représentations qui sont faites à certains niveaux gouvernementaux, par exemple, que ce soit provincial ou fédéral ou même municipal, qui vont dans le sens de décriminaliser tout ça et de, à tout le moins, une certaine partie, parce que oui, il y a l'aspect sexuel de la chose, il y a l'aspect aussi humain et physique. Il y aurait pas là une façon de décriminaliser une certaine partie de la chose, parce que de toute façon, que ce soit décriminalisé ou pas, ça se fait de toute façon.
Oui, tout à fait. Sauf que, après, il y a des organismes qui militent pour ça, comme l'organisme chez Stella, par exemple, qui est un organisme par et pour les travailleurs du sexe, qui est à Montréal, dont je fais partie, en fait. Donc, c'est pour ça que je m'implique un peu comme je peux, entre guillemets, avec mes moyens. Mais après, c'est vrai qu'au niveau tout ce qui est loi, politique, tout ça, il y a d'autres personnes qui sont quand même beaucoup plus au fait que moi sur ça.
Si je comprends bien, il y a vraiment un organisme à Montréal qui milite pour que vous soyez reconnu plus officiellement, disons ça comme ça.
Oui, tout à fait.
Est-ce que tu peux expliquer un peu rapidement comment se passe une rencontre du début, là, de quelqu'un qui t'écrit, par exemple, sur Facebook jusqu'à la rencontre? Comment ça se passe?
Alors moi, j'explique en fait les modalités, c'est-à-dire que les rencontres que je fais sont de minimum 1 heure et demie. Je compte 1 heure et demie parce qu'en fait, je prends en compte le transfert. Donc, c'est-à-dire que moi, je sais utiliser le laisse-personne, donc je peux transférer la personne dans son lit, la déshabiller et faire l'inverse ensuite à la fin. Donc, je compte 30 minutes en fait pour ça, pour pas que je fais des rencontres de minimum 1 heure et demie.
Mm-hmm.
Après, ce qui se passe, ça dépend de la personne, ça dépend de la possibilité de la personne, évidemment. Puis, c'est comme une rencontre, comme deux personnes qui font l'amour, tout simplement, en fait. Pénétration ou pas pénétration, selon la possibilité, mais il y a tout ce qui est caresse, préliminaire, choses comme ça, évidemment, oui. Puis, il y a beaucoup d'affection, c'est surtout ça, beaucoup, beaucoup d'affection.
Mmh, c'est ce que les gens recherchent le plus, j'imagine.
Oui, parce que c'est vrai que même ne serait-ce que d'être touché, d'être caressé, c'est quelque chose qui est extrêmement manquant et pourtant on en a tous besoin.
J'imagine que quelqu'un qui entre en contact avec toi, tu peux lui envoyer certaines photos justement pour voir si physiquement il y a une attirance.
Alors la personne peut m'envoyer des photos, il n'y a aucun problème avec ça. Moi, les photos que j'ai mises sur mon site, bon, elles sont évidemment anonymisées, c'est-à-dire qu'on ne voit pas mon visage, mais je n'envoie pas de photos supplémentaires en privé non plus, par contre. Puis ce que je fais de toute façon d'office, c'est que je leur demande d'abord s'ils ont consulté mon site, puis si ce n'est pas le cas, je leur donne le lien.
OK, donc c'est très très clair et très très facile, puis très très bien fait. Eh bien.
Il y a beaucoup de questions auxquelles je réponds sur mon site, aussi des questions quand on n'est pas habitué à ce genre de service-là, comme ça, moi, ça peut au moins mettre un peu en confiance.
Ouais, ben effectivement, c'est que ton site, pour l'avoir consulté, il est très bien fait, c'est très 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 précis. Ça fut un plaisir de jaser avec toi aujourd'hui, puis ben j'espère que ça aura démystifié ce travail auprès des auditeurs puis des gens qui seraient peut-être un peu parfois mal à l'aise de poser ces gestes-là. C'est correct, tout le monde a droit à une certaine intimité avec une autre personne. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on n'a pas droit à cette proximité-là physique.
Tout à fait, tout à fait. Puis tout le monde devrait pouvoir le revendiquer, peu importe si la personne se trouve dans un centre ou quoi que ce soit. Tout le monde y a droit.
Eh bien, Eden, merci beaucoup d'avoir été à l'émission. On se reparle.
Merci beaucoup, Michel. Merci à tous.
Qu'on vit dans une commune. Il sent le swing pis il est dans le. Il m'emprunte de la bière, moi de la remplacer, man. Mais quand que j'ai plus de bière, il m'a l'a pas remplacé, man. Mon coloc ménage. Mon coloc ménage. Il laisse traîner ses vieilles croûtes. Il met de la musique fort, même s'il rentre tard. Son chien jappe et il pète fort.
Mon coloc de Sam Harvey sur les ondes de Sequoia FM. Et ben maintenant qu'on a parlé de sexe, on va maintenant parler d'un autre sujet qui va bien, je vous dirais, avec l'hiver. Certaines personnes, en fait, plusieurs personnes ont envie de voyager, aller dans le sud, en Europe. Bref, se sauver de ce qui tombe dehors, de la neige. Et pour parler de tout ça, je m'entretiens avec Stéphane Trudeau, qui est au bout du fil. Monsieur Trudeau travaille pour une compagnie de une agence de voyage. L'agence de voyage Club Voyage à Lachenay. Bonjour, Monsieur Trudeau, vous allez bien?
Bonjour, monsieur, ça va bien, vous?
Oui, très bien. Comme je le disais, les gens sont en train de préparer leur départ pour le sud ou pour l'Europe. Bref, se sauver un peu de l'hiver.
Comment, les gens sont à la sur le soleil là.
Comment on fait pour préparer un voyage accessible et qui va nous rendre la vie plus facile et agréable?
Alors, c'est sûr que quand on prépare un voyage, la dimension de préparation est importante. Et je vous dirais que là, s'il y a des gens qui souhaitent partir pour le sud, on est déjà même un peu trop tard parce que les gens qui sont en situation d'handicap, c'est sûr que ça demande une préparation qui est un petit peu plus grande. Alors, à ce moment-là, c'est de rencontrer des professionnels du voyage qui sont spécialisés dans le domaine. On est peu au Québec à être spécialisé au niveau des gens en situation d'handicap. Alors moi, je suis arrivé un peu dans ce domaine-là, un peu par hasard, pas par hasard, mais j'ai une jeune fille de 28 ans qui est atteinte de paralysie cérébrale et c'est un peu via ce biais-là que j'ai commencé à m'intéresser à pouvoir exploiter ou à faire quelque chose avec cette passion-là, moi qui m'habitais. Alors ouais, la préparation, c'est important, rencontrer des bonnes personnes. Ensuite de ça, un coup la personne rencontrée et l'agent trouvé, c'est de regarder un peu, voir en fonction de qui on est et de la situation d'handicap qu'on a, voir les possibilités à travers le monde. Parce que, il y a plein de choses qui existent. En même temps, vous l'avez bien nommé tantôt, on va pas là pour se créer des difficultés, on va là pour avoir du plaisir. Voyager, c'est se donner du plaisir, c'est réaliser des rêves. Donc, moi, j'aime bien, quand je travaille avec des clients qui sont en situation d'handicap, j'aime bien garder ça simple et de façon à ce que ça soit agréable pour tout le monde.
OK. j'ai un petit chat dans la gorge, désolé. Est-ce qu'il y a des papiers particuliers? Est-ce qu'il y a des documents à remplir pour voyager ou c'est plus de la réservation d'avance, tout ça. Et aussi, par le fait même, ça me vient une autre question. Est-ce que quelqu'un qui veut voyager un peu dernière minute, est-ce que c'est possible ou c'est peu recommandé, disons?
On va commencer par la question au niveau des papiers, des documents de voyage. Une personne qui est en situation d'handicap ne requiert pas nécessairement plus de documents que ceux qui sont requis pour les gens qui voyagent sans situation d'handicap. Donc, c'est sensiblement les mêmes choses. Ok. Maintenant, c'est au niveau des préparatifs, au niveau souvent de l'équipement. Par exemple, une personne aura un fauteuil roulant, une personne nécessiterait de l'oxygène à bord de l'avion ou des soins particuliers. À ce moment-là, c'est là que je dis que de faire affaire à un professionnel qui connaît un peu le marché. Nous, on fait affaire avec les compagnies aériennes et avec les services médicaux des compagnies aériennes. Et à ce moment-là, oui, il y a des formulaires à remplir, mais normalement, c'est moi qui s'en occupe quand je fais affaire avec un client. Donc, à ce niveau-là, oui, il y a certaines choses à faire qui demandent un petit peu plus, mais ça, c'est la partie que moi, je vais m'occuper. Concernant la dernière minute, Encore là, moi, je le suggère moins. De un, au niveau des disponibilités, des chambres adaptées, entre autres pour des gens qui seraient à mobilité réduite, qui nécessitent un fauteuil roulant, ben il n'y en a pas des masses dans les hôtels. Alors, ça, c'est des chambres qui vont généralement partir très vite. La même chose sur les cabines de bateaux de croisière. Et en même temps, pour avoir été aidant naturel de ma fille pendant plus de 25 ans, je sais très bien que de vivre en situation de handicap, ben c'est pas simple en soi. Alors, c'est pas nécessairement plus simple en voyage, et d'où une bonne préparation. Fait que quelqu'un qui m'arriverait, qui me dirait, écoute, je veux partir en dernière minute, là, à moins de 2-3 semaines d'avis, et ça va être difficile parce que, il y a quand même beaucoup plus d'organisations que moi, il faut que je fasse en lien avec les différentes compagnies avec lesquelles on fait affaire. Et il y a tout l'aspect de disponibilité aussi des chambres qui viennent souvent biaisées ou qui viennent souvent atténuer le fait que la personne ne pourra pas nécessairement partir.
Est-ce que quelqu'un qui voudrait partir sans faire affaire avec une agence de voyage, est-ce que c'est possible? Monsieur, madame, tout le monde a juste à acheter des billets, booker une chambre d'hôtel et tout. Est-ce que quelqu'un qui fait cette démarche-là et qui a un handicap, est-ce que c'est possible de le faire?
Tout est possible dans la vie, en autant d'avoir les bonnes connaissances pour le faire. Maintenant, moi, ce que je dis toujours, c'est pourquoi vous privez d'un service d'un professionnel. Et bien souvent, les services... les tarifs que je vais vendre sont pas nécessairement plus chers. Mais en fait, ne sont pas plus chers que ceux qu'on va trouver sur Internet. Je mets simplement un petit frais de service pour mes recherches à moi, parce qu'on se cache pas que ce qui me prend une heure pour un client régulier sans handicap va m'en prendre trois pour un client à mobilité réduite. Alors, c'est sûr que quelque part, là, je vais essayer de rentabiliser un petit peu mes frais. Mais oui, c'est tout se fait aujourd'hui par Internet. Il faut savoir juste poser des bonnes questions. Ce qui est un peu plus complexe, c'est de prendre l'avion. Ça demande quand même certaines connaissances au niveau des compagnies aériennes. Maintenant, se louer un hôtel, n'importe qui est capable de se louer un hôtel avec une chambre adaptée, ça, c'est bien évident, là. Okay. Mais en même temps aussi, la dimension que moi je trouve intéressante, c'est j'ai voyagé quand même beaucoup dans le monde, à bien des endroits. Je fais pas juste vendre des voyages. Il y a vraiment la dimension conseil qui est en arrière de tout ça, moi qui m'anime beaucoup comme conseiller. Donc, il y a certaines villes qui sont beaucoup plus accessibles que d'autres. Il y a certaines destinations qui sont beaucoup plus simples que d'autres. Et j'en ai expérimenté quelques-unes, autant d'un côté positif que d'un côté négatif. Donc, cette dimension-là, je crois qu'elle n'est pas nécessairement à négliger en dehors du fait que les gens peuvent très bien réserver par eux autres-mêmes.
Mm-hmm. On l'a un peu évoqué tout à l'heure, les compagnies aériennes, faut vraiment que ce soit spécialisé, ils ont des formulaires et tout à faire remplir.
Oui.
On entend aussi dans les médias que certaines compagnies au Canada, à tout le moins, des fois, il leur arrive de briser le fauteuil, un fauteuil, de le perdre, et ça devient une tour de Babel, ça devient hyper compliqué à régler comme situation.
C'est très difficile en effet, puis c'est tout à fait vrai. Je l'ai vécu à plus d'une reprise, malheureusement, avec ma fille. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui mettent ça dans l'avion, ces fauteuils-là, ils font ça quand même sous pression. C'est pas des employés nécessairement des compagnies aériennes, c'est des sous-traitants. Moi, ce que je recommande aux gens, c'est de se rendre avec leur fauteuil roulant à la porte de l'avion. OK? Donc, parce qu'il y a différentes façons de procéder, mais la façon pour moi que j'ai trouvé la mieux, c'est de prendre le fauteuil et de garder le fauteuil jusqu'à la porte de l'avion. Moment où laquelle la personne embarque dans l'avion, et à ce moment-là, le fauteuil est descendu dans une espèce de soute un peu spéciale qui va faire en sorte que quand l'avion va arriver à destination, le fauteuil va être remonté à la porte de l'avion. Ça évite, entre autres, l'espèce de manutention sur les convoyeurs à bagages de façon... et là, on voit les valises qui tombent. J'ai déjà vu des fauteuils roulants arriver par là aussi. Là, bon, on se parle peut-être plus des fauteuils qui plient. Les fauteuils qui ont des positionnements dedans, ça va de soi. Ils vont aller à la porte. Les fauteuils motorisés aussi. Alors, oui, il faut faire attention à ça. On n'est jamais à l'abri de ça. J'ai eu plusieurs aventures. Mais moi, j'avais pris l'habitude de m'amener une espèce de mini-coffre d'outils qui faisait en sorte que j'étais quand même capable de réparer. C'était pas des bris majeurs, c'était peut-être un frein qui était déplacé, c'était vraiment des choses qui étaient plus minimes, mais il en demeure pas moins que ça reste quand même des fois problématique. Et c'est pas faux de dire que oui, par moment, il peut avoir des bris sur certains fauteuils au niveau des vols en avion.
Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus problématiques à ce niveau-là, qui font peut-être moins attention ou non. plus attention, ou c'est tout égal?
Non, moi, je pense que c'est égal. J'ai pas vraiment d'expérience plus ou moins. Et là, encore là, ce que je vous dis, c'est je veux faire attention. Ce n'est pas dans tous les cas. J'ai voyagé. J'ai fait plus de 25 voyages avec ma fille. C'est peut-être arrivé à 2 ou 3 occasions. Et quand je vous dis que les bris étaient mineurs, bon, ben c'était peut-être un frein qui était rentré par en dedans, une pièce de fauteuil qui était défaite. Par exemple, là, pour les vêtements ou des choses comme ça, il y avait rien de très majeur. N'empêche que fallait quand même que j'aie certains outils pour pouvoir le réparer. C'est la même chose à destination qu'on est avec des fauteuils roulants. Il faut aussi, moi ce que je dis aux gens, amener votre manuel d'instruction qui contient un peu toutes les spécifications de votre appareil, de façon à ce que si jamais il y a un bris, ben au moins on soit capable peut-être d'avoir les numéros de pièces et de faire venir des choses. Parce qu'il faut pas se leurrer que quand on s'en va à l'étranger, si on s'en va dans le sud ou on s'en va même en Europe, on pourrait penser que l'Europe sont très développées au niveau de la réparation de fauteuils. Ben non. Alors, il faut vraiment. C'est vrai, c'est pas un risque, mais ça peut faire partie des aléas de la vie. Des fois, ça peut être malheureusement un peu plus complexe et compliqué. Je pense qu'il faut être débrouillard puis essayer de voir comment on peut réparer les choses, puis se donner le plus de moyens possible. Sur ça, je dis aux gens d'amener le livre de spécifications au niveau de leur fauteuil.
Le temps file, M. Trudeau. Vos coups de cœur au niveau des pays, des endroits que vous avez visités avec votre fille, puis peut-être aussi un ou deux endroits à éviter.
Ben, et si on regarde au niveau, j'en ai plusieurs coups de cœur, ok, mais je vais y aller de façon générale. Une des meilleures façons que moi j'ai trouvé de voyager avec ma fille, puis c'est pour moi la plus simple et en même temps peut-être la plus agréable pour les gens qui sont en situation de handicap, ce sont les croisières. Tout est adapté sur un bateau de croisière, les cabines le sont, le bateau l'est en totalité, et même sortir dans les ports d'escale, c'est très simple, c'est pas vraiment compliqué, à moins qu'on soit que le bateau n'est pas à part, mais qu'on débarque sur des bateaux qui nous amènent au port, ça devient peut-être un peu plus complexe, mais même encore là, dans le cas d'une personne avec un fauteuil roulant manuel, il y a possibilité de le faire. Ça, c'est la première des choses. Il y a certains tout inclus qui sont super bien aussi. On s'entend que les plages et fauteuils roulants, ça marche pas nécessairement ensemble. Par contre, il y a il y a des équipements comme les hippocampes qui sont des fauteuils de plage qui peuvent très bien se louer avant de partir. Et moi, je fais affaire avec une compagnie aussi où je peux faire livrer de l'équipement à destination dans les hôtels ou sur les bateaux de croisière sans nécessairement que la personne ait à l'amener. Dans les villes, Barcelone, que j'ai visité, qui est une ville absolument extraordinaire et très adaptée, toutes les stations de métro le sont, les trains de banlieue le sont aussi. La ville de Londres, un très grand coup de cœur par rapport à cette ville-là au niveau de l'adaptation, c'est super bien fait. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les villes qui ont reçu les Olympiques en lien avec l'arrivée du paralympisme, ces villes-là ont développé vraiment quelque chose de super intéressant par rapport à l'intégration des gens et à l'accessibilité au niveau des gens à mobilité réduite. Ça, c'est vraiment un plus. Des pays à éviter.
Très, très rapidement, s'il vous plaît.
Très, très rapidement, j'en ai pas vraiment. L'Italie peut-être, attention, les vieilles villes, je suis allé à Florence avec ma fille, à Rome, c'est pas nécessairement les villes les plus adaptées au monde. Paris, il faut faire attention aussi, c'est des vieilles villes qui ne le sont pas. Retenez pour les villes, comme je vous dis, les villes qui ont reçu les Olympiques, c'est vraiment extraordinaire, ils ont vraiment fait quelque chose de bien par rapport à ça. Une dernière parenthèse, les États-Unis, se promener là en voiture ou en avion dans les villes partout, c'est vraiment bien, c'est adapté. Il y a toute une reconnaissance des gens qui sont en fauteuil roulant, probablement en lien avec le fait, avec les vétérans qui sont là. Moi, j'ai voyagé beaucoup aux États-Unis avec ma fille, j'ai jamais ouvert une porte de ma vie. Les gens sont très avenants, il y a vraiment quelque chose qui est très ancré au niveau de la culture, au niveau des gens qui sont à mobilité réduite pour les États-Unis.
Eh bien, M. Trudeau, merci beaucoup d'avoir été à l'émission. En terminant, en 2 secondes, on vous rejoint de quelle façon, si on veut affaire avec vous?
Ben, sur mon site Facebook, Stéphane Trudeau, on peut me trouver là. Sinon, mon téléphone cellulaire que je peux vous donner aussi, qui est le 438-407-4239, 438-407-4239, disponible 7 jours sur 7. Je suis associé à une agence, mais je ne travaille pas nécessairement tout le temps dans l'agence, donc je travaille à la maison.
Eh bien, parfait. Donc, on va vous souhaiter bon voyage. Je ne sais pas où vous allez lors de votre prochain voyage, mais bon voyage.
Ben, pareillement, puis une salutation à toutes les gens de la merveilleuse ville de Québec.
Parfait, merci beaucoup, monsieur.
Au revoir.
Au revoir. L'idole sur les ondes de CKIA FM. Et vous écoutez l'émission Les Capés avec Michel Bédard au micro. Et maintenant, ben, on s'entretient avec Catherine Blanchette-Dallaire de onroule.org. Salut Catherine.
Salut Michel.
On s'était parlé à l'automne dernier concernant une activité que tu organisais avec Onroule concernant l'accessibilité des commerces. On en fait un peu aujourd'hui le récapitulatoire, le résumé, tiens. Donc, on comment s'est passé ces journées-là lors de vos activités en septembre dernier?
Ben en fait, sérieusement, ça s'est super bien passé. Il y a des gens qui sont restés une journée au complète. Il y a des gens qui sont restés les trois jours.
Wow.
Parce que vraiment, ils voyaient là, qu'ils faisaient une différence. Puis souvent, à chaque fois que j'organise ces événements-là, en fait, les participants sont heureux parce qu'ils trouvent ça le fun, les interactions avec les commerçants, le fait de pouvoir parler de leurs problématiques, d'avoir vraiment comme le responsable souvent là, devant eux. Fait que la plupart des gens aiment beaucoup ces activités-là. Puis à chaque année, je trouve ça surprenant, j'ai des gens qui ont aucune connaissance de la réalité du handicap ou de l'accessibilité. C'est des gens qui veulent faire du bénévolat, c'est des gens qui veulent s'impliquer dans une bonne cause. Ils débarquent, puis on leur montre tout parce qu'ils n'ont vraiment aucune notion d'accessibilité. Fait qu'à chaque année, à chaque fois, je suis surprise de voir que ces gens-là s'impliquent, puis à quel point on fait une belle éducation au courant de la journée.
Vous avez eu la chance de visiter combien de commerces environ?
Il y a plus que deux, il y a presque 300 commerces qui ont eu une fiche de créer sur Onroule. Là, il y en a d'autres qui s'ajoutent à ça qui étaient vacants. Donc, malheureusement, on ne pouvait pas les visiter. Mais au total, au début, on visait 400 commerces, là, puis on a quand même fait une bonne partie de tout ça. Là.
Et quelle a été la réponse des commerçants?
En fait, moi, je le dis tout le temps, la plupart des commerçants, c'est pas qu'ils ne veulent pas être accessibles, c'est qu'ils savent pas exactement ce que ça veut dire. Puis quand on leur amène la Bible de l'accessibilité universelle, ben c'est trop compliqué. C'est trop complexe, c'est trop gros. Puis c'est synonyme de coût. Donc, à chaque fois qu'on fait ces événements-là, ben souvent les participants vont dire, écoute, vont donner des petits trucs faciles à mettre en place. Puis là, le commerçant comprend, un, il comprend comment le faire parce qu'il y a quelqu'un qui explique dans des mots qu'il peut comprendre. Deux, il voit à qui ça bénéficie. Puis trois, ils voient que c'est pas compliqué à faire. Fait que les commerçants, sont très heureux d'avoir ces petits trucs-là. Deux, il y en a beaucoup qui sont heureux de parler de leur accessibilité, de parler de la barre d'appui qu'ils ont installée, de parler de la toilette qu'ils ont payé parfois plus cher pour qu'elle soit accessible. Rarement, ils ont l'occasion de parler des choses qu'ils ont faites. Donc, dans ces événements-là, c'est toujours des beaux moments, en fait, là.
Et j'imagine que, comme tu dis, la réaction était positive pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été un peu plus « Ah non, ça m'intéresse pas » ou qui vous ont carrément fait fermer la porte au nez?
Mais je dirais que dans la vie, dans tous les niveaux, dans tous les secteurs. fait que je dirais pas que j'en ai pas eu, mais je dirais pas qu'il y en a eu plus que dans d'autres causes par rapport à d'autres problématiques. Tu sais, je veux dire, dans la vie, quelqu'un, puis je m'excuse l'expression, mais qui veut rien savoir de quelque chose, ben c'est pas par rapport à une cause, c'est une personnalité propre. Puis ben, cette personnalité-là, si tu la mets dans différentes causes, différentes réalités, ben elle va réagir de la même façon qu'elle réagirait par toi ailleurs. Fait que c'est pour ça que je veux pas nécessairement mettre l'emphase là-dessus, parce que souvent c'est plus un problème de personnalité qu'un problème de cause ou de réalité, là. Mais oui, bon, on en a eu des gens qui étaient peut-être moins conscients de cette réalité-là ou qui étaient moins intéressés à avoir cette clientèle-là aussi. Là. Mm-hmm. Mais sérieusement, peut-être 1 sur 400. Là.
OK.
C'est pour ça que je préfère ne plus en parler, parce que quand tu es rendu à 1 sur 400, ouais, c'est quelque chose qui n'est ouais, pas vraiment, qui est très, très, très négligeable. Là.
Le temps file, malheureusement. Tu l'as dit, vous aviez un objectif de 400. On va faire un chiffron. Disons que vous en avez fait 300, il vous en reste environ 100. Est-ce qu'il y a une étape 2, une phase 2 qui pourrait voir le jour, mettons, au printemps?
En fait, sur les 300 quelques, là, parce qu'il y en avait là-dessus un peu plus là, qui ont été vacants et tout, ce qui reste, c'est beaucoup des tours à bureau.
Okay.
Donc là, c'est plus compliqué à répertorier là, parce qu'il y a différentes étages, différentes toilettes à différents niveaux. Donc, c'est plutôt ça. Là. Mais au niveau des commerces sur rue, là, on a vraiment fait un... On a pas mal passé partout. Là. Je vous dirais, là, il n'y a pas grand place qui n'a pas été scanné dans le centre-ville. Là.
Et bon, là, tu parles du centre-ville. Est-ce que ça pourrait être étendu un peu plus large que le centre-ville?
Ben, c'est le but, en fait. Cet événement-là a été fait dans le cadre du mouvement 1000 jours AH. AH pour accessibilité humaine, parce que bon, c'est de l'accessibilité qui est partielle, c'est du patrimoine bâti. Malheureusement, on n'a pas l'accessibilité universelle là, dans cette réalité-là. Mais le but du mouvement 1000 jours AH, c'est que vraiment, on cartographie la totalité des lieux publics d'ici 2022. Donc vraiment, qu'on rentre dans les rues, qu'on rentre dans les commerces, qu'on fasse ce recensement-là, de manière à ce que tout de suite, les gens puissent mieux vivre parce qu'ils viennent de découvrir une multitude de lieux qui, non, ne seront pas accessibles à tout le monde, mais qui vont être accessibles pour beaucoup de monde. Mmh. Fait que le but, c'est que ça se transporte, puis que ça fasse une traînée de poudre, puis que là, tout le monde utilise son rôle, parce que le formulaire est en ligne. Donc, les gens, quand ils vont dans le répertoire de lieux, ils peuvent cliquer sur « Ajouter un nouveau lieu » et inscrire des lieux eux-mêmes. Donc, le but, c'est vraiment que la cartographie se fasse de façon naturelle, puis que les gens rendent des lieux, puis qu'on ait un portrait clair de c'est quoi l'accessibilité actuelle.
En 30 secondes, vous avez cartographié le centre-ville de Montréal, mais c'est possible de le faire ailleurs, mais pas juste dans la région de Montréal. C'est possible de le faire à Gaspé, à Saguenay, à Québec, à Sherbrooke, à Trois-Rivières.
Oui, il y a des gens de la région du Lac-Saint-Jean qui m'ont contacté. On avait déjà fait des petits événements à Sherbrooke. Laval aussi, on en avait fait aussi. Québec, je sais qu'il y a quand même un travail de ce côté-là, mais on pourrait essayer de le compléter. Donc, ça se fait à travers le Québec, là. Il n'y a pas... En autant qu'on a des bénévoles, c'est tout. Après ça, c'est parti. C'est fait.
Et donc, pour ceux qui voudraient avoir accès à ces informations-là ou à rentrer de l'information sur le site, on voit quel endroit?
Onroule.org et puis dans les onglets, dans le menu principal, cliquez sur 1000 jours AH et en bas complètement, il va y avoir le lien vers la liste de tous les commerces qui ont été visités. Et puis sinon, pour ajouter un lieu, on va dans le menu, l'onglet lieu et il va y avoir un bouton rouge qui va dire ajouter un nouveau lieu.
Eh bien, merci beaucoup, Catherine Blanchette-Dallaire. Et on se reparle pour d'autres sujets très intéressants, autant que celui-ci.
Bien, tout à fait.
Bonne fin de journée à toi.
Merci, bye-bye.
Bye-bye. Eh bien, nous, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. On se retrouve donc la semaine prochaine. Merci à nos invités Catherine Blanchette-Dallaire, Stéphane Trudeau et aussi à Eden, j'oublie son nom de famille, et évidemment à Olivier. Eh bien, nous, comme je l'ai dit, on se retrouve la semaine prochaine, 16h sur les ondes de CKIA FM. Vous pouvez aussi nous écouter en balado-diffusion sur le site internet de la station, sur Spotify et sur Apple Music, Podcast. Donc, bonne semaine. Bye-bye.
Vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine.
Parce que le plaisir croît avec l'usage, prolongez l'expérience CKIA sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et sur CKIAFM.
J'ai un cappuccino pour Caroline.
Oui, c'est moi, Caroline. Hein? Vous l'avez écrit correct? 1K, 2L, 2N. Malade. Je vais te prendre un 649.